francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 16 mai 2014, en direct du studio 13 à Washington, Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Idrissa, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, au moins 3 personnes tuées et 5 blessées cette semaine en RCA dans des attaques dans le nord-ouest du pays. Double attentat à la bombe contre un marché de Nairobi, au moins 10 morts et 70 blessés. Second tour de la présidentielle dimanche en Guinée-Bissau.
Si le président et le premier ministre sont du même bord, ou s'il y aura une cohabitation.
De Bissau, le politologue Fafali Koudaou. Good luck Jonathan annule à la dernière minute sa visite à Chibok, où Boko Haram a enlevé le mois dernier des centaines de lycéennes. En Turquie, les propriétaires de la mine, où près de 300 mineurs ont perdu la vie, se défendent des accusations de négligence. Navi Pillay tire la sonnette d'alarme sur une détérioration alarmante de la situation des droits de l'homme dans l'est de l'Ukraine. Potentiellement une grande percée dans la lutte contre le cancer, une femme atteinte d'un cancer de la moelle osseuse présente des symptômes de guérison aux États-Unis. Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
La République centrafricaine, toujours en proie aux violences armées. Au moins 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées cette semaine dans des attaques au nord-ouest du pays. C'est ce que rapporte l'AFP, citant la MISCA, la force africaine déployée sur place. Les villages situés à au moins 10 km de Batangafo ont été assiégés par des hommes armés, décrits comme des peuls.
En RCA toujours, au lendemain de leur décision de mettre un terme aux violences, les anti-Balaka ont arrêté aujourd'hui un des leurs qui voulait s'en prendre à un commerçant sénégalais au marché central de Bangui. Par ailleurs, le mouvement Bring Back Our Girls a atteint Bangui. L'ONG Enfants sans frontières organise un sit-in demain devant l'ambassade du Nigeria à Bangui. Le point avec Idriss Fall.
La personne arrêtée était détentrice d'un bat des anti-Balaka. Il voulait s'en prendre à Moussa Salem, un commerçant sénégalais vivant depuis plusieurs années à Bangui. Des miliciens anti-Balaka sont intervenus pour délivrer le commerçant. Émotion Brice Namsio, porte-parole des anti-Balaka.
Ce sont nos éléments qui se trouvent au niveau du marché central qui l'a appréhendé parce que justement il avait amené sur lui un faux pistolet en train de menacer notre frère musulman. On n'a pas besoin vraiment de continuer dans ce sens, non, même pas.
Toujours à Bangui, l'ONG Enfants sans frontières prévoit d'organiser demain un sit-in devant l'ambassade du Nigeria. Le mouvement Bring Back Our Girls atteint donc les Banguissoises qui entendent elles aussi protester contre l'enlèvement des lycéennes par Boko Haram au Nigeria.
Signalons aussi que le corps de la journaliste française Camille Lepage, tuée lors d'un reportage en Centrafrique, a été rapatrié aujourd'hui. Le président François Hollande s'est recueilli auprès de sa dépouille à Paris.
Au moins 10 morts et 70 blessés dans un double attentat à la bombe contre un marché de Nairobi. Nathalie Barge.
Selon la police, 2 engins explosifs improvisés ont explosé dans le marché près du centre-ville. Une des bombes a frappé un minibus. Au moins 2 personnes ont été détenues pour interrogatoire, a indiqué le chef de la police de Nairobi, Benson Kibui. C'est un acte de plus, mais les Kenyans sont invités à rester calmes. Nous surmontons cela, vous ne devriez pas paniquer. Ce sont des lâches, on va surmonter cela et on va les avoir. Cette semaine, Washington et Londres ont émis des avis de voyage au Kenya, mettant en garde contre de possibles attaques. Alors qu'il présentait ses condoléances aux victimes ce vendredi, le président Uhuru Kenyatta a critiqué ces alertes, disant qu'elles ne font que renforcer les terroristes.
Un village du sud-ouest de la Côte d'Ivoire a été attaqué la nuit passée. L'incident s'est produit à Bappé, à 4 km de Grabo. Aucun bilan n'a été fourni. Un témoin cité par l'AFP affirme que la quasi-totalité des habitants ont fui vers la forêt.
Pour le ministre ivoirien de la Défense, il ne s'agit pas d'une attaque armée. Paul Kofi Kofi affirme que les assaillants ne sont que des pilleurs et des bandits. L'armée est en plein ratissage et les a mis hors d'état de nuire.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan évite Chibok. Le chef de l'État nigérian a annulé à la dernière minute sa visite dans la ville du Nord, où les islamistes ont kidnappé le mois dernier plus de 200 lycéennes. Jean-Roger Billon.
La présidence a indiqué ce vendredi que M. Jonathan n'était pas en mesure de faire le voyage de Chibok dans l'état de Borno pour des raisons de sécurité. L'enlèvement le 14 avril dernier de près de 300 jeunes filles par le groupe Boko Haram dans cette région a suscité l'indignation dans le monde entier. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'inertie du gouvernement accusé de ne pas faire assez pour leur libération. Abuja, en réponse, a dit être en train d'étudier toutes les options pour libérer en toute sécurité les jeunes filles. Le président Jonathan s'envole aujourd'hui pour Paris, la capitale française, où il va prendre part à un sommet international convoqué à l'initiative du président François Hollande pour dessiner une stratégie de lutte globale contre Boko Haram. Cette réunion sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui se tient samedi, verra, outre la participation du président français François Hollande, celle des chefs d'État du Bénin, du Cameroun, du Niger et du Tchad.
Au Mali, le nouveau Premier ministre Moussa Mara effectue sa première visite à Tombouctou dans le Nord. Hostile à sa venue, des jeunes Touaregs ont manifesté à Kidal.
De Bujumbura, notre correspondant Eric Manirakiza nous signale que la police burundaise a arrêté et maintenu en détention le défenseur des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa. Aucune arrestation n'a été portée contre le défenseur des droits de l'homme, mais il semble que son arrestation soit liée aux propos qu'il aurait tenus à la radio concernant l'armée et les services de sécurité du Burundi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Inde, les premiers résultats du scrutin législatif qui vient de s'achever donnent l'avantage au parti nationaliste hindou dirigé par Narendra Modi. Des détails avec Issa Napon.
Le parti Bharatiya Janata est en effet en bonne position pour remporter la majorité des sièges au Parlement indien. Dirigé par le candidat à la primature Narendra Modi, cette formation politique pourrait profiter de l'affaiblissement du parti du Congrès pour s'imposer. Au pouvoir depuis 10 ans, le parti du Congrès a été secoué par des scandales de corruption à grande échelle, auxquels s'ajoute une économie plombée par une forte inflation. Au grand bonheur du candidat de l'opposition, les votants n'ont visiblement pas tenu compte d'une ancienne controverse concernant Narendra Modi. Ce dernier avait été pointé du doigt après des violences de 2002 entre hindous et musulmans sous son mandat de gouverneur de l'État indien de Gujarat. Des affrontements qui avaient fait un millier de morts. Narendra Modi a su projeter depuis une image de leader capable de relever l'économie nationale. Selon la commission électorale indienne, 66% des 815 millions d'inscrits ont voté à l'issue de 5 semaines de campagne pour ce scrutin législatif présenté comme l'exercice démocratique le plus large au monde.
En Turquie, les propriétaires de la mine de charbon, où près de 300 mineurs viennent de périr, se défendent des accusations de négligence. Le gouvernement turc est aussi critiqué pour sa réponse à cette stratégie. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Soma, Alp Gurkan, patron de la compagnie Soma Holding, a défendu le bilan de son entreprise en matière de sécurité. Nous avons, dit-il, investi nos revenus dans l'amélioration des conditions de travail pour éviter d'éventuels accidents. Alp Gurkan a tout de même reconnu qu'une des chambres de secours de la mine avait été démontée. Équipée d'une alimentation autonome en oxygène, celle-ci pouvait abriter jusqu'à 500 mineurs en cas de désastre. Une nouvelle chambre était en construction au moment de l'accident, a déclaré le chef de Soma Holding, une information qui, selon les analystes, attisera sans doute les critiques acerbes contre le gouvernement, accusé de ne pas faire respecter les mesures de sécurité minière. S'exprimant près de la mine sinistrée, le ministre turc de l'énergie, Taner Yildiz, a revu à la baisse le nombre des mineurs pris au piège dans les galeries. Celui-ci se situerait entre 100 et 18, a-t-il dit. Pendant ce temps, au cimetière local, les enterrements des victimes de la tragédie de mardi se poursuivent à un tel rythme que les cortèges funèbres sont priés d'évacuer rapidement les lieux pour faire place aux autres.
Les observateurs de l'ONU en Ukraine avertissent que la violence perpétrée dans l'Est par les insurgés pro-russes crée une détérioration alarmante de la situation des droits de l'homme.
Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, exprime ses profondes préoccupations sur le sort des minorités subissant des actes de harcèlement et d'intimidation en Crimée, région annexée en mars par la Russie. En réaction, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l'ONU de manque total d'objectivité et de deux poids deux mesures.
Le secrétaire américain à la Défense assure que Washington fera tout le nécessaire pour empêcher l'Iran de se doter d'une bombe atomique.
Chuck Hagel a donné ses assurances lors d'une réunion à Jérusalem avec le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou estime que les Iraniens tentent de leurrer la communauté internationale quant à la vraie nature de leur programme nucléaire. Les négociateurs de l'Iran et du groupe des six tentent à Vienne d'arriver à un accord définitif sur le nucléaire iranien avant le 20 juillet.
En Chine, en prélude au 4 juin, 25e anniversaire de la répression sur la place Tiananmen à Pékin, un autre éminent avocat des droits de l'homme vient d'être interpellé. Selon la femme de Tang Jingling, la police est intervenue et venue le cueillir chez eux à Guangzhou, disant qu'il est soupçonné de causer des troubles.
Tang a représenté des victimes non dédommagées de confiscation de terres, ainsi que des défenseurs incarcérés des droits de l'homme. Chaque année, Pékin arrête des activistes ou les assigne à résidence avant le 4 juin, dans une tentative apparente d'empêcher toute commémoration de mouvements de protestation sur la place Tiananmen.
Voilà pour le journal, au micro Idrissa Sedudia et Morgane Guériec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
En Guinée-Bissau, quelques 750 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. José Mario Vaz, 57 ans, candidat du PAIGC, fera face à Nuno Gomes Nabiam, 51 ans, candidat sans étiquette, mais soutenu par le PRS de l'ancien président Koumba Yala. Quels seront les principaux enjeux ? Idriss Fall, adjoint à Bissau, le politologue Fafali Koudao, fondateur du journal Kansari.
La grande différence entre ces deux candidats, c'est qu'il y a un qui a une longue carrière politique, a occupé des postes au gouvernement. Il y a un autre d'une carrière dans les sphères administratives. Le premier est appuyé par le PAIGC, qui a longtemps été au pouvoir en Guinée-Bissau et qui vient de gagner les élections législatives. Le second est appuyé par le PRS, le Parti de la Rénovation Sociale, de l'ancien président Koumba Yala. Et il est apparu en premier lieu comme un indépendant et puis finalement il a pu avoir l'appui de beaucoup de partis. L'un prétend assurer une cohérence du pouvoir et l'autre prétend équilibrer le pouvoir. Par conséquent, si le président et le premier ministre seront du même bord ou s'il y aura une cohabitation.
Qu'est-ce qui va faire la différence?
C'est la volonté de la population de voir le pouvoir est stabilisé dans une espèce de cohérence entre le président et le premier ministre, ou bien de vouloir un équilibre entre un premier ministre et un président qui va lui servir de contre-pouvoir. La décision se fera sur ce terrain-là.
Est-ce que la campagne a mobilisé les foules, par exemple?
La campagne a beaucoup mobilisé la population. Les gens se rendent compte qu'il y a un enjeu majeur, choisir un président qui pourrait mettre à mal le pouvoir qui a été déjà conféré au PAIGC par les élections législatives. Il y a cette mobilisation. C'est partisans d'une cohérence du pouvoir. Mais il y a aussi la mobilisation des partisans d'un rétablissement d'une espèce d'équilibre. Donc les deux camps sont au coude à coude. On dirait que le PAIGC bénéficie de sa machine suffisamment implantée dans le pays. Mais le candidat indépendant a aussi réussi à avoir une une coalition de partis qui lui servent désormais de troupes pour la mobilisation des électeurs.
Fafali Koudao, politologue à Bissau.
Au Sénégal, la Biennale de l'art africain contemporain bat son plein. La Poste sénégalaise a présenté sa collection de timbres qui permettent de retracer l'histoire du pays de l'indépendance à nos jours. De Dakar, Djenaba Sedouba.
Dans le cadre de la programmation off de la Biennale de Dakar, la Poste sénégalaise a proposé sa collection de timbres. Les responsables veulent faire la promotion de la philatélie. La philatélie, c'est l'art de collectionner les timbres postaux et timbres fiscaux et de les étudier. Fatou Diaw, responsable de l'exposition.
Ces timbres-là représentent tous les aspects de la vie d'une nation. On dit que le timbre est un ambassadeur pour le pays qui l'aimait, parce que par la magie, comme je le disais tout à l'heure, des affranchissements et de la collection, ces timbres-là pénètrent dans tous les foyers du monde entier pour renseigner sur la vie du pays. Et elle prend aussi en compte les grands événements mondiaux et nous travaillons, et la philatélie est basée aussi sur un programme de l'agenda culturel du pays. Tous les événements qui se passent pendant l'année sont pris en compte dans le cadre du programme philatélique annuel.
La Poste a toujours essayé, tant bien que mal, à accompagner les artistes sélectionnés pour le Dakar en les intégrant dans les images des timbres. Ousseynou Wadj est le directeur des arts.
Et j'ai donné pour exemple l'édition spéciale de timbres Poste portant sur le logo de la Biennale et les œuvres de trois artistes primés en 1996 et en 1998 et 2000. Il s'agissait précisément des artistes Moustapha Dimé, Vie Diba et Ablaï Konaté. Je dois dire que Moustapha Dimé a fait l'objet disons d'une distinction à la Biennale de 92. Et l'édition de Timbre Poste s'est réalisée en 2002 à l'occasion du 10e anniversaire de Dak Art.
Hormis les timbres, un artiste, agent de la Poste, a exposé sur le thème des baobabs. Son nom, Alun Sen.
Moi, je travaille uniquement sur le baobab parce que j'ai vécu presque 8 ans sous un baobab. Donc, dans la grande cour du bureau de poste de Rufis, il y avait un baobab. J'ai commencé à les ramasser, à les garder, sans arrière-pensée. Après, l'inspiration est venue pour me montrer que peut-être je pouvais travailler sur le fruit du baobab et en faire des bonhommes, en faire des visages.
Depuis 24 ans, la Poste participe à toutes les programmations des expositions off de la Biennale de l'art africain contemporain. Une exposition ouverte tout le long de la Biennale au grand bonheur des collectionneurs de timbres. Djenaba Sedouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Bonjour, Nathalie Barge, juste pour vous dire de ne pas manquer samedi à 19h30, temps universel, le magazine Au Féminin. Ce sera une édition spéciale pour parler de la crise au Nigeria avec comme invité le docteur Maurice Anda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain. Rendez-vous samedi 19h30, temps universel, sur la Voix de l'Amérique. Le football, parce qu'il brasse tant d'argent, fait tourner la tête de nombreux jeunes burkinabés. Au détriment de l'école, ils rêvent de carrière de footballeur professionnel, parfois même avec le soutien de leurs parents. Le foot, caverne d'Ali Baba du Faso, le reportage de Zoumana Wanogo.
Il y a quelques années de cela, quand on demandait à des jeunes garçons africains ce qu'ils voulaient être quand ils seront grands, les réponses variaient entre médecins, policiers, enseignants, journalistes, avocats ou magistrats. Aujourd'hui, la même question a une réponse presque invariable, devenir footballeur professionnel. On écoute les jeunes Aruna Tanou et Toussaint Kabouré sur leur choix du football.
J'ai vu des gens qui sont en train d'évoluer à cause du football là. Donc j'aimerais jouer comme les autres là. Il y a beaucoup d'argent dedans. Je tiens à être un footballeur professionnel.
Bon, je vais être professionnel. Je vais être comme Cristiano. Ronaldo.
L'image du footballeur a beaucoup évolué, ce qui n'a pas toujours été le cas sous nos tropiques. Suivant, celui qu'on appelle le Présigunt, bien connu dans le milieu du football burkinabé.
Avant, tu es un enfant, tu veux aller jouer au ballon. Si tu pars, tu joues au ballon, tu reviens à la maison, ça chauffe. On te fait comprendre comme quoi ballon, ce n'est pas un métier. Maintenant, avec l'évolution, ce sont les papas même qui déplacent, venir déposer les enfants au terrain avant d'aller au travail. Donc maintenant, tous les gens reconnaissent que le football, c'est devenu un métier. Et il y a l'argent là-dedans. À l'heure, la maman souhaite de faire un enfant garçon pour qu'il puisse jouer au ballon. Et il a une idée arrêtée. Un jour, cet enfant va m'aider.
Devenu une grosse machine industrielle, le foot s'appuie tout de même sur l'école pour mieux s'envoler. C'est l'avis de Kassoumou Ouédraogo dit Zico, ancien footballeur international burkinabé et fondateur d'une académie sport-études, ou plutôt foot-études.
Les deux peuvent aller ensemble. Savoir aller à l'école et savoir s'entraîner, c'est une question d'organisation qu'on n'avait pas avant. Et donc actuellement, notre organisation permet aux enfants de suivre les cours toutes les matinées et l'après-midi. On donne la chance aux enfants maintenant d'apprendre à jouer au foot. Un enfant qui n'est pas scolarisé, c'est très difficile aussi parce que le football demande beaucoup, beaucoup de choix tactiques, beaucoup de réflexion. Donc un enfant qui ne sait pas réfléchir, même s'il sait jouer au ballon, ça va être difficile.
Il y a de nos jours beaucoup d'appelés au foot dans les centres de formation. Malheureusement, peu d'élus dans le professionnalisme. Et pour être parmi les heureux élus, voici les conseils du lion indomptable Samuel Eto'o aux jeunes.
On peut avoir le talent, mais sans travail, ce talent n'existe pas. Je peux vous dire, et je suis la preuve de cela, mais je peux vous dire que j'ai travaillé jour et nuit. Alors, jeune frère, travaillez, vous avez le talent, c'est un don de Dieu. Moi, votre grand frère, je vous demande juste une place au stade et je viendrai avec mon avion pour vous regarder.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Je vous le disais en titre, aux États-Unis, une femme de 49 ans atteinte d'un cancer de la moelle osseuse a été guérie après l'injection d'une dose massive de virus modifié de la rougeole. Mais pour plusieurs spécialistes de la maladie, il est encore trop tôt pour commenter ce résultat annoncé cette semaine, Jacques Aristide.
Oui, l'américaine Stacy Erholz, une habitante du Minnesota, a passé ces 10 dernières années à lutter contre le myélome multiple, un cancer des cellules du plasma dans la moelle osseuse. C'est une maladie qui provoque des tumeurs osseuses et des tissus mous. Ce cancer répond habituellement à des traitements qui stimulent le système immunitaire, mais finit souvent par les vaincre. Bref, il est rarement guéri. Et c'est là que font leur entrée le docteur Steven Russell et son équipe de la Mayo Clinic. Ils choisissent deux malades, dont Stacy, pour des essais jamais effectués auparavant. Pourquoi elle? Selon l'hématologue Russell, ces patientes ne répondaient plus aux autres thérapies et avaient connu plusieurs rechutes de leur cancer. Hente donc le fameux virus de la rougeole. Les chercheurs sont arrivés à quantifier la dose de virus nécessaire pour diminuer le cancer des malades. 100 milliards d'unités infectieuses au lieu de 10 000 unités standards. Une dose qui aurait pu être utilisée pour vacciner 10 millions de personnes. Les deux patientes ont reçu chacune une seule dose de ce vaccin contenant des virus génétiquement modifiés de la rougeole capable de cibler les cellules cancéreuses. Les résultats sont surprenant. Toutes deux ont réagi positivement à ce traitement avec une réduction des cellules cancéreuses. La bonne nouvelle, l'une des malades, Stacy, a connu une rémission complète sans trace de cancer depuis plus de 6 mois. Mais la moins bonne nouvelle, le traitement n'a pas eu le même succès avec l'autre patiente dont le cancer a néanmoins été affaibli par cette virothérapie. Toutefois, le docteur Russell se félicite de ses premiers essais car pour lui, il s'agit de la première étude clinique à montrer la faisabilité d'une virothérapie contre des cancers ayant fait des métastases. En fait, ces virus modifiés de la rougeole n'avaient jamais auparavant été appliqués chez les humains. La méthode était réservée aux souris. Donc, une première mondiale, un début prometteur. Néanmoins, nombre de cancérologues que nous avons contactés demeurent prudents et disent qu'il faudra encore du temps pour se prononcer sur la question. Quant aux chercheurs de la Mayo Clinic, ils prévoient d'étendre leurs essais sur un plus grand nombre de patients en septembre prochain.
Eh bien, merci Jacques. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, c'est aussi les sports avec Issa Napon aujourd'hui. Voilà, Issa est avec nous. Un mot, Issa, pour commencer sur la Coupe du Monde 2022 déjà, avec le président de la FIFA qui est revenu sur sa parole en ce qui concerne l'organisation du mondial durant l'été au Qatar.
Oui, bonjour Idrissa. Effectivement, Sepp Blatter a déclaré avoir fait une erreur en acceptant la tenue du mondial 2022 dans une période d'été très chaude au Qatar, où les températures atteignent 50 degrés Celsius. Le président Blatter a reconnu son erreur face aux journalistes en arguant que tout le monde commet des erreurs dans la vie. Le patron de la FIFA a indiqué qu'en dépit de tout, le comité maintient dans sa large majorité le choix du Qatar pour accueillir ce mondial 2022 avec un report plus que probable de la date de la compétition en hiver afin d'éviter l'extrême chaleur des mois de juin et juillet dans ce pays du Golfe.
Pour un Sahélien comme vous, la chaleur du Qatar ne devrait pas poser problème. Mais enfin, Lionel Messi rallonge son contrat avec le Barça et augmente de même, du même coup son salaire.
Et oui, la star argentine du FC Barcelone et son club sont tombés d'accord aujourd'hui sur les termes de nouveau contrat, selon une annonce sur le site internet du club. Si le club n'a donné aucune information au plan financier, Lionel Messi, qui bénéficiait d'un contrat estimé à 16 millions d'euros annuels, signé en 2013, devrait, selon la presse, désormais devenir le joueur le mieux payé au monde. Le meilleur buteur de l'histoire du Barça touchera 20 millions d'euros par an, d'après le quotidien Marca. À 26 ans, il restait toujours une star planétaire courtisée, notamment par le PSG et Manchester City, avant que ne le retienne le Barça, qui joue le titre de champion d'Espagne, on le rappelle demain samedi, dans une finale contre l'Atlético Madrid.
Alors, on va terminer avec le basketball professionnel nord-américain. Indiana et Oklahoma City ont remporté leurs séries respectives hier soir pour rentrer dans le dernier carré de la NBA.
Indiana a défait Washington par 93-83 pour s'imposer par 4 victoires contre 2. Le club croisera en finale de la Sous-Ligue Est le Miami Heat de LeBron James. À l'Ouest, Oklahoma City a bataillé dur pour venir à bout des Clippers de Los Angeles par 104-98. Son prochain adversaire sera les Spurs de San Antonio.
Roger Muntou est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Papa Wemba vient de boucler l'enregistrement de l'album Maître d'école, dont la sortie mondiale est prévue le 20 juin 2014. D'après Wemba, ce nouvel album célèbre la rumba congolaise. Bien attendant l'album Maître d'école, dégustons Yolele.
Voilà, merci Roger pour cette page musicale. Roger Muntou que vous retrouvez hein, tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma était à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, au micro Idrissa Seloudia
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.